Shalom. La sagesse et la prophétie. La sagesse et la prophétie sont deux canaux, si l'on veut dire, qui amènent à la connaissance, mais d'une manière tout à fait différente. Alors que la sagesse est l'objet de la philosophie, la prophétie intervient dans la connaissance de l'homme d'une manière tout à fait différente. La prophétie est une parole adressée par le Créateur à la créature, alors que le philosophe, par contre, tente de connaître la vérité sans intervention du Créateur. De ce point de vue-là, on pourrait dire que la philosophie et la prophétie sont une antithèse. En effet, les premiers philosophes ont commencé à parler, il y a une histoire de la philosophie, les premiers philosophes ont commencé à parler alors que s'éteignaient les dernières étincelles de la prophétie dans l'histoire. En effet, dans un monde dans lequel Dieu se révèle, il n'est pas nécessaire de faire des spéculations pour comprendre l'essence du monde. Il suffit d'interroger le Créateur. Si j'ai des questions, je peux les adresser à celui qui a créé le monde. Tandis que chez les philosophes, le présupposé est qu'il n'y a pas de révélation, ou qu'en tout cas, la révélation appartient au passé. Elle appartient à l'histoire antérieure, elle est donc caduque et elle ne représente pas un canal de connaissance. Pourquoi parlons-nous de ça? Eh bien parce que la prophétie a toujours été la préoccupation la plus profonde de la conscience juive. Jamais il n'a été question d'extinction totale du phénomène prophétique, même si nos sages nous ont dit quand est-ce qu'on cessait de parler les derniers des prophètes, Haggai, Zechariah et Malachi. Mais jamais l'espoir du retour de la parole n'a été éteint dans la conscience d'Israël. Contrairement, par exemple, à ce que nous trouvons dans l'islam, où il est question justement du prophète de l'islam comme étant le dernier et définitif prophète de l'histoire, ou bien ce qu'a fait le christianisme en affirmant que la parole s'était transformée en chair, et donc la parole n'est plus écoutée, c'est la chair qui est le contact avec la divinité. Par contre, dans le peuple d'Israël, depuis toujours, c'est la parole prophétique, le souffle prophétique, qui est à la base de toute la conscience d'Israël. Or, ce sujet est capital du point de vue de la pensée du Rav Kook, étant donné l'époque dans laquelle nous vivons, qui est celle du retour d'Israël à sa terre, et donc l'espérance tangible d'un retour de la Shekhina, de la présence divine parmi nous, et donc une renaissance du phénomène prophétique. Cependant, nous ne pouvons pas, faire abstraction du fait que pendant plus de deux millénaires, c'est la sagesse humaine qui a pris la place des prophètes, aussi bien chez les nations que dans le peuple d'Israël, et cela a certainement un sens. Et pour l'intelligence de ce phénomène, de cette question, nous allons passer sur quelques points fondamentaux qu'étudie le Rav Kook dans son texte appelé Chacham Adif Min Navi, le sage est préférable au prophète. C'est une expression tirée du Talmud. Le Talmud nous dit que depuis la destruction du Temple, les sages ont pris la place des prophètes, et l'expression là-bas en hébreu est Chacham Adif Min Navi, ce qui veut dire le sage est préférable au prophète. Dans quel sens peut-on dire qu'un sage est préférable au prophète? Il faut ne pas se tromper, il n'est pas dit que le sage est plus grand que le prophète. C'est une évidence que le prophète est plus grand, celui qui a un contact direct avec la parole de Dieu est évidemment un homme supérieur. Mais, c'est le point sur lequel insiste le Rav Kook, c'est que le sage est plus efficace que le prophète. C'est-à-dire le projet des prophètes a échoué dans l'histoire. En effet, les prophètes ont été envoyés à Israël et aux nations pour faire des remontrances, pour les avertir qu'il faut cesser de pratiquer toutes les abominations des peuples cananéens, qu'il ne faut pas pratiquer l'idolâtrie, l'homicide, la débauche, l'inceste, le vol. Et on voit que pendant 1000 ans, les prophètes ont parlé et finalement, il y a un constat d'échec. Les prophètes n'ont pas pu empêcher la décadence du peuple, n'ont pas pu empêcher la destruction du temple de Jérusalem et l'exil. Et donc on peut se demander quelle a été l'utilité des prophètes et quelle est la raison de leur échec. Par contre, nous voyons que dès qu'a commencé la période dite des sages, avec les hommes de la grande assemblée qui vivaient à l'époque des derniers des prophètes, et par la suite les enseignements des sages tout au long de l'histoire, aussi bien chez les sages de la Mishnah que du Talmud, et puis ceux qui sont venus après eux, eh bien nous voyons que le peuple juif a abandonné l'idolâtrie et graduellement est devenu un peuple d'une très haute moralité. La réponse à ce paradoxe, cette interrogation pour le Rav Kook, c'est que les prophètes ont une vision globale de ce qu'on appelle le klal, ils voient les choses en grand, mais ils ne rentrent pas dans les détails. Par contre, les sages, eux, s'occupent des détails et ont une difficulté à voir une vue d'ensemble. Par exemple, c'est un peu la différence qu'il y a entre les poètes et les scientifiques. Les poètes ont une vision globalisante du phénomène qu'ils rencontrent. Ils sont très impressionnés, en bien ou en mal, par ce qu'ils voient de l'état du monde. Par contre, les scientifiques font des mesures. Et donc, on peut imaginer un poète et un scientifique qui observent un coucher de soleil, et bien qu'étant en face du même phénomène, ils réagissent de manière tout à fait différente. Le poète va entendre chanter la nature, tandis que le scientifique sera occupé à mesurer la longueur d'onde. Et on pourrait même dire que chacun va mépriser l'autre et se dire que l'autre est un fou, il ne s'occupe pas de l'essentiel. Le fait est qu'au long de l'histoire, et donc il a fallu que les sages viennent pour réduire le champ d'investigation des hommes et s'occuper uniquement des petits détails. Quand vous regardez dans un livre de Halakha, on ne vous parle pas de métaphysique, on ne vous parle pas de Dieu créateur du monde, ni de l'infini, ni de grandes considérations philosophiques. Finalement, on rentre dans le détail. Comment est-ce qu'il faut se laver les mains quand on se lève de son lit? Comment il faut attacher les lacets de ses chaussures? Et ainsi de suite. Il y a, pour tout homme d'Israël, au moins 1 million de règles qu'il doit observer journellement, ou en tout cas au long de la semaine, sans parler de l'ensemble des lois qui concernent les tribunaux et l'État et tout le reste. Et donc, ce qu'ont fait les sages, ils ont attrapé, on pourrait dire, le Yetzer Hara avant qu'il ne se développe. C'est un peu comme le petit prince qui déracine les petites racines de baobab avant que cela ne devienne des gros arbres qu'on ne peut plus déraciner. Donc on peut dire que les sages ont été efficaces, bien qu'ils ont réduit la stature de l'homme. Les prophètes étaient des hommes d'une très grande stature, mais qui ne pouvaient pas rentrer dans le détail de l'action et de l'éducation, et c'est la raison pour laquelle ils ont été remplacés par les sages, qui sont plus efficaces, bien que plus petits. Or, ce que le Rav Kook diagnostique de son temps, c'est un éveil du souffle prophétique. En effet, avec le temps, les détails ont envahi le collectif. Le prat est devenu plus important que le klal. Et cela a créé une réaction. La réaction est une révolte, c'est une sorte de dialectique pourrait-on dire, et une révolte du souffle prophétique contre le monde des détails. En effet, les sionistes laïcs, attachés au retour à l'identité nationale, à un retour à la nature, à un retour à l'art, à la production artistique et littéraire, ont développé également un rejet des détails de la halakha. C'est, d'après le Rav Kook, le fait que le souffle prophétique est en train de revenir, mais qu'il est encore, il manque de mûrissement. Et viendra un temps, dit le Rav, où la prophétie va retrouver sa pureté originelle, et c'est alors qu'elle sera capable de reconnaître la grandeur des actions de la sagesse, des détails des sages pendant l'histoire, et alors va se produire une sorte de synthèse, une synthèse entre les prophètes et les sages. Or, cette synthèse a déjà existé dans l'histoire chez un homme. Cet homme était Moïse, Moshe Rabbeinu, qui lui était capable d'être à la fois le père des sages et le père des prophètes. Ce qui est absolument exceptionnel, parce que pour être sage, il faut être capable d'analyse, alors que si on est prophète, on doit être capable justement de vision globale. Et c'est cette synthèse entre le détail et le collectif entre la prophétie et la sagesse, qui était l'apanage de Moshe Rabbeinu. Or, ce que dit le Rav Kook, c'est que grâce à cette dialectique qui est en train de s'établir entre l'héritage des prophètes et l'héritage des sages, c'est là que l'âme de Moshe pourra revenir parmi nous dans le monde. Ce qui explique les Midrashim qui parlent du retour de Moshe à la fin de l'histoire parmi les enfants d'Israël. Tout cela se lie également à une invitation que fait le Rav Kook à un effort de la part des étudiants de la Torah de réaliser l'unité entre les deux branches de l'étude, Halakha et Agada, c'est-à-dire la législation des détails et d'autre part les discours homilétiques, les paraboliques, etc., qui sont en général séparés. En effet, dans le Talmud de Babylone en particulier, les pages qui traitent de Halakha et les pages qui traitent de Haggadah ne sont pas les mêmes. Par contre, dans le Talmud de Jérusalem, qui est la Torah d'Eretz Israël, on voit une tendance à l'unification de la Halakha et de la Haggadah. Effectivement, c'est la raison pour laquelle il est nécessaire qu'il y ait un retour de la productivité littéraire et artistique dans le peuple d'Israël, non pas simplement pour rendre la vie plus agréable, mais il y a ici un sujet extrêmement fondamental qui est le retour à l'unité originelle de la Torah qui existait chez Moshe Rabbeinu et qui a commencé à disparaître dans l'histoire. Donc c'est avec optimisme que nous devons accepter la révolte momentanée contre les détails de la sagesse par une génération révoltée. D'ailleurs, nos sages nous ont dit qu'à la fin de l'histoire, il y aura une effronterie collective de la société contre la Torah, contre ses détails. Mais le Rav Kook dit, cette effronterie n'est pas simplement une catastrophe, c'est également quelque chose de positif. C'est ce qui va amener finalement la revivification de l'étude de la Torah et également le retour bénéfique du souffle prophétique au sein d'Israël. Shalom.